Jean-Claude Rochouze, dans d'histoires et de contes sur RDWA.
Avez-vous vu mon ange ? Chaque jour, pour aller travailler, je prends le même itinéraire. C'est l'itinéraire du auto-boulot-dodo. Il y a le matin l'entrée de l'autoroute, le tunnel de l'autoroute, la sortie de l'autoroute, puis un premier feu, un deuxième, un troisième, et le boulot. Il y a le soir, un premier feu, un deuxième, un troisième, l'entrée de l'autoroute, le tunnel de l'autoroute, sa sortie, et le dodo. Ainsi de suite, 5 jours par semaine. L'automatisme est tel que quelquefois je sors du tunnel sans même m'être aperçu que j'y suis entré. Chaque matin, elle se tient au troisième feu, vendant aux automobilistes un magazine à 1 euro pour soutenir les exclus de notre société d'aliénation. C'est une jeune fille. Elle se tient toujours tête baissée, épaules voûtées. Son manteau est gris, trop long, ses baskets sont usées. Elle ne regarde jamais le ciel, mais toujours le goudron. Elle passe entre les voitures arrêtées par le feu rouge, tenant ses journaux fripés devant elle au milieu du bruit et des gaz d'échappement. Quand le feu passe au vert, elle revient près du même poteau, toujours penchée, toujours voûtée. A-t-elle 20 ans ? Peut-être. Un matin, par hasard, je me trouve arrêté en tête de file au feu rouge. Elle s'approche. Je lui fais signe et descends la grande vitre de ma petite voiture, lui tendant une pièce de 1 euro. Elle voit la pièce briller, se penche, fait un signe de croix sur ma poitrine, me regarde, et dans son regard, je vois le soleil se lever sur le premier matin du monde. Alors je comprends qu'un ange est là, pauvre et solitaire, échoué à ce carrefour encombré. Derrière moi, un automobiliste impatient klaxonne. Je prends le magazine et démarre. Elle se recule, je la perds de vue, le ciel me paraît plus sombre. Le lendemain, le feu est au vert, je passe sans m'arrêter. Le surlendemain, puis pendant plusieurs jours, je fais de même, soucieux cependant de vérifier si elle est présente ou non. Elle est là, toujours miséreuse, toujours voûtée, malgré sa jeunesse. Je décide de l'aborder. Mais comment aborder un ange qui vend des magazines à 1 euro sur le bord d'une route ? Que lui demander ? Que lui offrir ? Puis, l'idée me vient qu'un ange doit être proche de Dieu. Le raisonnement me semble logique, mais je ne sais pas parler de Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé. D'ailleurs, il n'a jamais parlé à personne. Son silence est aussi infini que son étendue. Il a bien créé le Verbe, mais ensuite, il l'a donné à l'homme pour le meilleur et pour le pire. N'est-il pas vrai que seul l'homme actuel verbalise ? En effet, autant où l'homme était un Australopithecus ramidus, Dieu ne lui a donné que des mimiques, des exclamations, des onomatopées. Le Ramidus dit « gros fniarg, pas scromia, quick, ta, br, et même, mirourg, dans ses bons jours, quand il a bien mangé. » Puis Dieu, ayant fait des progrès, il le fait articuler. C'est l'homo habilis, puis l'homo erectus qui se répand sur toute la terre, car il aime bien voyager et parler à tout le monde. Ensuite, l'homme se débrouille tout seul et se met à baratiner à tort et à travers dans d'innombrables langages, car il a choisi de se compliquer la vie. Devenu sapiens, il invente même l'écriture, ce que Dieu n'avait pas prévu. L'esprit explore tout, même les profondeurs de Dieu, dit saint Paul. Il invente même plusieurs écritures pour pouvoir encore plus se compliquer l'existence. Je décide donc de faire écrire à mon ange quelques phrases écrites au cours de rares moments, peut-être mystiques, peut-être, de ma vie. Elles surgissent de mon lobe frontal, surtout au réveil, au sein des réseaux neuroniques connectés aux iris singulaires, puis sont transmises aux aires du langage de Broca et de Wernicke. Je me dépêche, alors, de les écrire sur un petit carnet, car elles s'enfuient très vite de ma mémoire, ce qui est une juste précaution, la pensée de Dieu étant des milliards de fois plus rapide que la nôtre. De plus, elle ne prévient jamais à l'avance de son passage. Le lendemain, après le deuxième passage, le deuxième feu, je ralentis et je me gare. Mon ange est près de son poteau. Mais je panique. Je n'ose pas l'aborder. Vous ne paniqueriez pas, vous, si vous deviez rencontrer votre ange au coin de la rue. Le surlendemain, je me gare à nouveau un peu avant le troisième feu. Elle est là, fatiguée, adossée à son poteau. Je l'interpelle. Elle me reconnaît. Je lui explique ce que je veux. Réécrire avec soin pour moi mes brouillons sur Dieu, ou le soi ou l'esprit si vous faites partie de ceux qui ne croient pas en Dieu. Je lui explique aussi qu'elle sera rémunérée 10 euros pour 5 pages. Car les anges mangent, comme tout le monde. Mon ange me comprend mal. Elle est roumaine, en tout cas c'est ce qu'elle me dit. Peut-être même d'origine tzigane, un peuple que Dieu aime bien. Car vous savez, Dieu, il est mélomane. Fraîchement arrivée dans cette morne banlieue est de Paris, elle parle difficilement le français. Je suis obligé de revenir au langage du Ramidus avec force, gestes et mimiques pour me faire comprendre, mais finalement nous parvenons à nous entendre. Je commence par lui faire écrire plusieurs phrases, dont celle-ci. Dieu vient avant l'esprit d'enfance. Dieu est dans votre corps, mais si vous regardez votre corps, Dieu est dans chacun de vos organes. Et si vous regardez chacun de vos organes, Dieu est dans chacune de vos cellules. Et si vous regardez chacun de vos atomes, Dieu est dans chaque quark de chaque atome. Et si vous regardez chaque quark, Dieu y resplendit d'une lumière insoutenable. 8 jours après, je m'arrête à nouveau et je lui demande mes écrits. Elle me tend des feuillets, me regarde et je vois le soleil se lever sur le deuxième matin du monde. Dieu soit loué. J'ai trouvé le langage qui convient aux anges. Les phrases réécrites sont pleines de fautes d'orthographe. Les anges ont toujours été fâchés avec le langage des hommes qui est venu après eux. Je corrige et lui demande sèchement de tout réécrire. Elle s'incline sans dire un mot. Je lui tends un autre feuillet avec les phrases suivantes. Si Dieu et l'homme sont en symbiose, ils évoluent ensemble. Il se peut que l'image archétypique de Dieu ne soit que l'une des multiples formes sous lesquelles il se révèle. Dieu est à la fois impulsion et trace. Plus précisément, cette impulsion laisse des traces. Anticipe le chemin de Dieu pour toi. La semaine suivante, je m'arrête à nouveau. Elle m'attend près du poteau. Il pleut. L'eau dégouline sur son beau visage, un visage d'ange. Elle me conduit sous le porche du proche HLM en briques rouges, me tend les nouveaux feuillets, me regarde, et je vois le soleil se lever sur le troisième matin du monde. Elle a tout corrigé, tout réécrit. Il y a moins de fautes d'orthographe. Je la remercie, lui paye son dû, et comme nous approchons de Noël, je lui offre un dictionnaire de français. Elle le regarde, étonnée, soudainement heureuse, et d'un seul élan se précipite vers moi pour m'embrasser. Mais j'ai un mouvement de recul. Pardonne-moi, mon ange. Est-ce notre différence d'âge, de culture, ma timidité ? Ses jolies lèvres m'effleurent sans me toucher. Je lui tends d'autres feuillets. Dieu déborde l'individu, mais déborde-t-il l'humanité ? Il y a Dieu en moi, mais peut-être y a-t-il eu Dieu en moi. M'aurait-il quitté ? La barbarie se combat en luttant autant contre nous-mêmes que contre les autres. La semaine suivante, elle me donne les nouveaux feuillets, me regarde. Et je vois le soleil se lever sur le quatrième matin du monde. Mais je vois aussi qu'il y a 2 petits nuages dans le ciel de son regard. Je réfléchis. Et je comprends que les 2 points d'interrogation des 2 premières phrases l'ont attristé. Les anges n'ont aucun doute sur Dieu, aucun. Ils sont dans sa lumière et ils ne comprennent pas les incertitudes humaines à son sujet. Je la remercie chaleureusement pour son travail, voulant la consoler sans le lui dire. Je lui donne d'autres pensées à écrire, par exemple, Dieu est sans forme, mais il peut toutes les créer. Donnez-nous aujourd'hui notre curiosité quotidienne. Rien ne dit que les chemins vers Dieu soient droits. Tu aimeras ton prochain et ton lointain plus que toi-même, car l'esprit d'amour est en toi, en ton prochain et en ton lointain. Si vous avez l'esprit compliqué, ayez au moins des goûts simples. Mais là, je fais l'erreur de ma vie. En terminant par les deux phrases suivantes, ne nous soumettons pas à Dieu, explorons-le. Il faut ajouter au droit de l'homme le droit de s'attaquer à Dieu. La semaine suivante, elle n'est plus au carrefour. Ni le mois qui suit, ni l'année qui suit. Les anges qui ont reçu la grâce sans connaître l'esprit de révolte ne supportent pas que l'homme se dresse face à Dieu. Pardonne-moi, mon ange, de n'être qu'un homme. Si vous avez vu mon ange, dites-le-moi. Elle est roumaine, elle s'appelle Adriana. Dites-lui que je regrette mon orgueil, que je serai humble. J'aimerais-t-on voir le soleil se lever sur le cinquième matin du monde. Avez-vous vu mon ange ? Glace de rêve. Je chemine sur le sentier des cascades de Putaval. Ce sentier sinueux d'une haute vallée de la Drôme. Il est enneigé. Mes souliers à crampons laissent leurs marques dentées sur ces aiguilles de glace. Le ruisseau n'est plus qu'une surface nacrée. Sur ses rives, seuls les buis ont gardé leurs feuilles et les branches des pins noirs ploient sous le poids de la neige. Il y a des traces de hérons cendrés et plus loin, celles de chevreuils et de campagnols. Pas à pas, avec précaution, je monte vers les cascades. Soudain, à un tournant, je suis au pied de la première. C'est une magnifique cascade de glace à trois sauts, les deux paliers correspondant à une limite entre les bancs de la falaise calcaire du Titanique. Je laisse mon corps à l'extérieur et j'entre dans la glace du premier saut. C'est l'eau devenue solide d'un très vieil océan aux eaux chaudes. Elle garde la trace de ses habitants. Il y a des myriades de bactéries qui échangent leurs acides nucléiques, fusionnent, s'interpénètrent, se regroupent en formant des symbioses. Un peu plus haut, remontant la cascade, je vois apparaître des vers annelés ou lisses, sans cils ou avec cils, des coraux multicolores, des tardigrades à pattes se réveillant d'un long sommeil, des poissons sans mâchoire, puis avec. Je passe le premier palier, où je perçois les restes fossilisés d'ancrines et de trilobites qui n'ont pas survécu à un océan acide saturé de mercure. Je m'aventure dans la glace du deuxième saut, témoin d'un océan à reptiles, où nagent tortues, sélacantes, requins, nautiles et ichthyosaures. Partout des myriades de bactéries et protozoaires, des ammonites tentaculaires et des bélemnites à rostre. Je parviens au deuxième palier, qui garde souvenir en cercle concentrique d'une onde de choc météoritique suivie d'une longue nuit tueuse d'algues. Ammonites et bélemnites ne sont plus que traces pyriteuses. Je suis maintenant dans le troisième saut de glace, souvenir d'un océan où nagent des thons, des dauphins, de longues baleines bleues filtrant le plancton et sur lequel flottent de lourds voiliers. C'est une chance que l'eau ait gardé la mémoire de ces paysages. Émergeant du sommet de la cascade, je me laisse glisser vers le bas où je récupère mon corps, resté sagement sur place sans bouger. Il faut dire que mon voyage n'a duré que quelques minutes, mes articulations n'ont même pas eu le temps de s'ankyloser. Je reprends le chemin, des marches y sont taillées, ce qui facilite l'accès à la deuxième cascade. Avec ce froid intense qui sévit depuis 15 jours, elle s'est métamorphosée en une impressionnante colonne glacée de 40 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur à la base, sur laquelle l'eau ruisselle lentement. J'assois mon corps sur un rocher et fais entrer mon esprit dans la colonne. C'est un univers bleu, d'une incroyable beauté cristalline. Le nuage électronique s'y est stabilisé en respectant une géométrie florale inattendue. Les motifs s'entrecroisent sans se mêler, comme s'évitant les uns les autres. Le silence n'est pas total, car l'eau qui glisse sur la colonne résonne. Les sons font penser au chant des baleines, plaintifs parfois, mais harmonieux comme des berceuses pour enfants. C'est un vaste palais aux salles sculpturales où je circule sans rencontrer âme qui vive, n'écoutant que le concert des gouttelettes d'eau. Je sors de la colonne et récupère mon corps, toujours assis sur le rocher. Je redescends le ruisseau, marchant avec précaution sur la glace, tapotant avec un bâton pour tester son épaisseur. Un peu plus bas, un bloc énorme barre le ruisseau. L'eau invisible passe en dessous. Son sang ressemble à celui d'une fourmilière devenue effervescente car vous l'avez dérangée. Une voix retentit derrière moi. Arrête de rêver et avance. Il va bientôt faire nuit, dit ma compagne. Les femmes ont un problème avec les rêves des hommes. Elles ne supportent pas que les hommes rêvent. Elles les veulent pratiques, efficaces, bricoleurs, ramenant des sous, protecteurs, les épaules et les reins solides, les pieds sur terre. Une femme qui vous dit « Mon homme, c'est un rêveur », ce n'est pas un compliment. Inversement, un homme peut dire « J'aime voir ma femme rêver ». Il voit un joli minois, une pose alanguie, un regard mélancolique. Pour un homme, une femme rêveuse est attendrissante. Elle vous donne envie de lui écrire un poème. Pour une femme, un homme rêveur devrait plutôt s'occuper du quotidien et mettre du beurre dans les épinards. Mais, madame, votre quotidien n'est peut-être qu'un rêve. Par exemple, qui vous dit que le non observable n'est pas réel ? La colonne de glace est réellement un monde d'atomes, de molécules figées qui se mettront en mouvement à la fonte des neiges au printemps. C'est une question d'échelle. Changez d'échelle et vous changez de réalité. Mais avance donc au lieu de lambiner, me dit-elle de façon péremptoire. Il va faire nuit. Zut, j'étais encore parti dans ma colonne de glace, nous voyant dans ce palais aux piliers de cristal, passant de chambre en chambre, toutes plus féeriques les unes que les autres. Il faut que je me tienne dans mon corps. Je rassemble mes esprits épars et les dissous dans les forêts de neurones aux lianes synaptiques de mon cerveau. Ça y est, c'est stabilisé. Je lui dis, nous ne risquons rien. La nuit ne tombe que dans une heure et nous n'avons qu'à suivre nos traces en sens inverse. Je sens qu'elle se rassure. En fait, je lui ai menti. La nuit tombe dans une demi-heure seulement, mais c'est juste le temps qu'il faut pour que nous retrouvions notre voiture. Je pense. Bien joué, mon gars, il n'y a vu que du feu par ce temps de neige. Ce petit mensonge n'est pas dans la réalité, mais il l'a fait entrer dans le rêve. Je suis sûr qu'elle rêve, qu'elle est déjà rentrée à la maison devant un bon feu de cheminée en train de déguster son thé et ses chocolats préférés, car c'est une gourmande. Je me retourne, la massive colonne de glace est toujours là, monument imposant, cachant ses cristaux. Dommage, je pense, j'y serais bien resté plus longtemps. Que voulez-vous, je suis un rêveur.
Merci d'avoir écouté d'histoires et de contes avec notre ami Jean-Claude Rouchouze. Donc vous retrouverez bien sûr ce numéro et tous les autres en podcast et ce de manière illimitée sur le site www.rdwa.fr. Moi, je vous dis à bientôt dans d'histoires et de contes. Thank you.